Toujours à Grégoire de Nice. Hein.
Oui.
Oui. Alors, est-ce qu'on... J'avais parlé de ses œuvres. J'avais commencé à parler de la vie de Moïse, hein, j'imagine.
Vous avez oui. fait passer le livre.
Oui, j'ai fait passer le livre. Voilà. Alors, je vais changer de livre. Alors, je vous ai fait passer le livre. Alors, voilà. Alors, je ne sais plus si je vous avais dit ça, mais ce qui m'a pas mal impressionné, moi, en lisant la vie de Moïse, puisque j'ai fait un cours dessus, c'est l'insistance sur la liberté. Je ne sais plus si j'avais parlé de ça.
Non.
Ah, d'accord. Bon, alors en tout cas, dans ce livre qui est une sorte de commentaire spirituel de la vie de Moïse, alors ce n'est pas un commentaire littéral au sens où on essaie d'expliquer le texte, mais on se sert du texte pour expliquer autre chose. Et l'autre chose en question, c'est d'une part la vie morale du chrétien, d'autre part sa vie mystique. Donc sa vie morale, ben, Moïse nous est donné comme modèle. Quand il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas vraiment exemplaires, on passe dessus en disant que ça doit vouloir signifier autre chose, pas au niveau moral, mais à un autre niveau. Donc c'est comme ça que les pères se servent de l'écriture. Hein. Et donc ils la servent, mais enfin ils s'en servent. Et puis aussi donc, de la vie mystique, c'est-à-dire l'itinéraire de la vie de Moïse comme itinéraire de l'âme vers Dieu. Alors dans la vie de Moïse, Grégoire de Nice se fait le défenseur de celui qui tombe et qui veut se relever, disant qu'il n'est pas possible d'éteindre toutes les passions et que d'ailleurs le Seigneur ne le demande pas. Non, parce que les passions, c'est un peu le carburant de l'action. Ce qu'il faut, c'est savoir les diriger. Savoir les maîtriser parce que si on n'est pas passionné d'une certaine manière, finalement on n'entreprend rien.
On est un mou.
Comment ?
On est un mou.
On est un mou, ouais, c'est ça. Et donc il faut avoir. Mais là, par contre, le problème des passions, c'est qu'elles peuvent entraîner la liberté trop loin ou. Faire des écarts sur le chemin, on peut verser dans le fossé, etc. Et Grégoire, qui est un bon platonicien, évidemment, a derrière la tête les chevaux de Platon, hein, le cocher de Platon.
Mais il n'est pas stoïcien.
Non, mais non, parce que justement, les stoïciens ils asphyxient l'âme, finalement, en tuant les passions.
C'est ça.
Et les stoïciens, comme d'ailleurs les bouddhistes, d'ailleurs, le stoïcisme, finalement, a son origine dans l'Extrême-Orient. Hein.
Oui. En fait, il s'agit de la tempérance. Maîtriser ses passions, c'est de la tempérance.
Oui, la tempérance, c'est la vertu. C'est-à-dire même toutes les vertus, chaque vertu est une ligne de crête, finalement, entre deux...
Maîtriser, c'est la tempérance.
Oui, la tempérance pour le concupiscible, mais par exemple, ça peut être la prudence dans l'action, ça peut être, je ne sais pas, la force... pour l'irascible, ça peut être... Donc, en fait, chaque vertu a un milieu. C'est pour ça qu'on dit « medio stat virtus ». Donc, c'est la vertu, elle se tient sur... Alors, ce n'est pas un milieu qui est un marais, mais c'est plutôt un milieu qui est une ligne de crête, hein, vous l'avez compris. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de courants philosophiques, également en Occident, mais qui ont leur origine, semble-t-il, en Orient, Extrême-Orient, qui vont essayer de dire, ben voilà, pour l'action ça fait souffrir, la passion ça fait souffrir, donc pour pas souffrir, supprimons les passions. Hein, par exemple, les stoïciens,
Voilà. C'est Marc Aurèle.
Oui, Marc Aurèle. Voilà.
Feuerbach n'a pas dit ça non plus.
Non, oh, pas bah, Feuerbach, non, de savoir. Après, c'est un vaste courant philosophique.
Sénèque.
Bah, un peu Schopenhauer.
Schopenhauer.
Et alors, tous ces auteurs ont un peu tendance à dire, ben voilà, si vous ne désirez rien, eh ben vous ne serez pas déçu de ne pas l'avoir. Voilà. Et donc, si vous aimez personne, vous ne serez pas déçu de l'ingratitude des gens.
C'est un peu châtrer les gens.
Oui, alors finalement, l'idéal du stoïcien, c'est celui d'un minéral. Hein, c'est un peu ça.
D'un caillou.
Et alors justement, la pensée aristotélicienne, platonicienne, etc., ne tombe pas dans cette erreur. Mais elle tombe pas non plus dans le libertarisme en disant « suivons nos passions », mais plutôt « maîtrisons nos passions pour parvenir à quelque chose ».
La perfection de sa nature.
Oui, c'est ça, la perfection de sa nature, pour parler comme l'école. Alors, justement, il pousse à la prudence, écarter ce qui enflamme les passions, et il insiste sur la puissance du libre arbitre, qui doit être... là, il reprend l'image platonicienne des deux chevaux et du cocher. Il prend aussi l'image... Par exemple, quand il décrit les chars égyptiens qui courent après les Hébreux. Alors, vous savez, il y a... Alors là, il change d'image. Il ne prend plus l'image de platonicienne avec les deux chevaux et puis le cavalier. Mais il prend les trois personnages qui sont sur le char. Dans un char de guerre de cette époque, il y avait un conducteur... un archer et un type qui avait une lance. Et alors il dit, voilà, c'est donc ce sont les deux grandes catégories de passions, des racines du concupiscible, plus celui qui doit les mener, c'est-à-dire la raison. Alors ça, c'est un truc. Après, il reprend une autre image. Vous savez que l'ange sauteur, qui est exterminateur, parce que pas que ça vient de sauter, en fait. Donc c'est
il saute, parce
que globalement pour les Juifs, ce qui avait été d'abord fondamental, c'est pas tellement le fait de traverser la mer Rouge. Fondamentalement, c'est que là où l'ange exterminateur liquidait tous les premiers-nés, il sautait les maisons habitées par les Hébreux. Donc c'est pour ça qu'on dit Pâques, enfin le saut. Pourquoi ? Parce qu'on mettait du sang de l'agneau, parce que c'est là le rapport direct entre l'agneau et le salut, c'est la dixième plaie, c'est pas le passage de la mer Rouge. Le rapport entre l'agneau et la mer Rouge asséchée, il est lointain. Ils avaient déjà fini de le digérer. Hein. Et en revanche, le rapport est immédiat avec le sang de l'agneau qui est répandu sur les montants et sur le linteau. Alors, Grégoire de Nice, évidemment, il va interpréter ça comment ? En disant que les deux montants des portes, ce sont les passions, et le linteau qui les maintient ensemble, eh ben, c'est la raison. Vous voyez, un bel exemple d'allégorie patristique, hein. Je ne pense pas que l'auteur du livre de l'Exode ait pensé à ça. Hein. Mais bon, peut-être même pas le Saint-Esprit. Grégoire de Nice a pensé pour eux. Alors, en tout cas, il insiste énormément sur la liberté. Il dira, par exemple, dans la vie de Moïse, que nous sommes à nous-mêmes nos propres parents. Alors, pourquoi ? Parce que, vous vous souvenez que dans la Genèse, dans l'Exode, on dit que Pharaon faisait tuer les premiers-nés mâles, mais gardait les premiers-nés filles. Donc, il tuait les petits garçons, mais il gardait les petites filles. Alors, Grégoire de Nice dit « c'est normal ». Pourquoi ? Parce que un garçon, c'est solide, c'est viril, etc. Donc le tyran voulait surtout pas avoir des gens qui puissent s'opposer à lui. Donc il jette les garçons dans le fleuve, tandis que les filles, c'est séducteur, etc., etc. Donc lui qui avait écrit quand même la vie de sa vertueuse grand-mère sainte, Donc il dit, les filles, c'est le symbole justement de la volupté, de la passion, etc. Donc le tyran veut les garder, évidemment. Et après, il dit, alors nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien nous, on doit devenir des garçons, même si on est des filles. C'est-à-dire, on doit vouloir être la vertu solide et non pas la volupté facile. Et c'est à ce moment-là qu'il dit, nous pouvons être à nous-mêmes nos propres parents et nous engendrer selon ce que nous voulons. Et autrement dit, contre tous les déterminismes possibles, en fait, il affirme la primauté du libre arbitre, de la liberté. Nous pouvons devenir ce que nous voulons être. Voilà. Ça, c'est quand même très fort, hein, cette affirmation.
Mais c'est un nouvel être ou pas ?
Alors non, c'est pas un nouvel être. C'est-à-dire, on peut pas. Je pense qu'il aurait pas été d'accord pour qu'on devienne, qu'on fasse de la chirurgie.
Non, mais un nouvel être au sens d'une conversion, comme vous l'étonnez.
Oui, exactement, c'est ça.
Un nouveau début, ça, non.
C'est ça.
Pas dit ça.
Alors, c'est bien la métanoïa. Alors, là aussi, vous voyez, méfions-nous. Hein. Quand on cite ces textes-là, il y a certainement des petits vicieux qui vont dire oui, alors qu'il veut dire qu'on peut s'engendrer, changer de genre, etc. etc. Mais. Comme quoi, oui, voilà, transhumanisme, et on vous citera Grégoire Denis comme.
Ils ne connaissent pas Grégoire Denis.
Non, ils ne le connaissent pas.
Le discours d'Emmanuel.
Oui. Ah, d'ailleurs, le discours d'Emmanuel aussi, autre point. Moi, j'y reviendrai plus tard. Moi, j'aurais pas mis. Moi qui ai enseigné au Bernardin, j'aurais pas mis la moyenne. Hein. Même si, même si c'est mieux qu'Hollande, même si c'est un peu mieux que Sarkozy, mais quand même, le problème, c'est qu'il affirme toujours pas le droit qu'a Dieu de régir une société, y compris temporelle, parce que supprimez Dieu et vous aurez les idoles à la place. Et toutes ces idoles dont il se plaint finalement dans son discours et dont il remercie les chrétiens de s'occuper bénévolement quand même des conséquences, c'est la conséquence naturelle d'une société qui a chassé le vrai Dieu pour le remplacer par quoi ? Par rien, mais rien. Comme la nature horreur du vide, et ben ce sont les idoles, précisément les idoles qu'il dénonce, qui viennent remplacer la place du Dieu dont la société temporelle ne veut plus rendre un culte, auquel elle ne veut plus rendre un culte. Alors, par contre, j'étais un petit peu moins déçu par le début du discours, mais bon. Mais pour la fin, parce que son début, finalement, sur la première question, il applique la doctrine aristotélicienne de la prudence aux politiques, et ça, à mon avis, il fait bien. Et alors, par contre, sur les questions de bioéthique, alors, quel enfumeur, hein. Enfin, bon.
Il dit à peu près rien.
Il n'y a à peu près rien. Oui, c'est ça. Sauf que globalement, merci aux chrétiens d'être là pour penser les plaies bénévolement. Merci même, alors ça, ce que ni Hollande, ni peut-être même Sarkozy aurait dit, merci même de temps en temps de dire les choses quand même. Mais enfin, rassurez-vous, on ne vous obéira pas. Alors,
quand il cite, je crois, Julien Green ou Bernanos,
oui.
Il oublie un peu que c'est des écrivains qui ont plongé dans le,
oui.
dans le sacrifice.
Ils balancent les noms,
dans
en fait,
le sacrifice, hein. Et qui ont une optique profondément chrétienne, de dire que faire ces sacrifices, on s'offre en sacrifice pour sauver, on ne s'offre pas pour une...
C'est ça, mais à mon avis...
C'est la dimension qui est un peu...
C'est pour ça que je dis que c'est un peu un enfumeur, parce qu'il cite les noms, il cite de Lubac, Marroux, etc. Voilà, c'est mais bon, je ne suis pas persuadé qu'il ne les ait pas lus, enfin du moins certains, mais en tout cas, il n'a certainement pas envie d'appliquer leur doctrine.
Il n'y a pas d'élève. Il n'est pas de lui, le discours.
Il a donné une page blanche, je lisais encore.
Ah oui, oui.
Son conseiller, lui.
Et c'est son conseiller qui l'a fait.
Oui.
Il a eu une crise mystique apparemment chez les Bernardins sur les enfants.
À 12 ans.
Entre ses 10 et ses 15 ans.
Il a demandé
le baptême.
Bah oui, il a demandé le baptême.
Les Bernardins ne citent pas des gens si on ne donne pas le sens profond de ce qu'ils ont fait. C'est ça qui me choque.
Non, mais c'est les arguments que Figaro aime bien.
Alors que Benoît XVI, qui a fait un discours 10 ans plus tôt, quand il cite le Don Leclerc, il l'avait vraiment lu, parce que moi, j'ai vu les citations de 30 ans ou 40 ans avant de Ratzinger sur Leclerc, qu'il a gardé comme un auteur de prédilection. Alors, donc retournons la page et revenons à Grégoire. Alors, donc, il insiste donc sur la liberté. Et il dira même dans le discours catéchétique, qui est un autre ouvrage de lui, « Si la vie qui suit le baptême n'est pas différente de celle qui l'a précédée, je le dirai sans détour, même si mon propos est audacieux, l'eau dans ce cas n'est que de l'eau. » Alors, l'eau n'est que de l'eau. Autrement dit, pour Grégoire, les sacrements ne fonctionnent pas de manière magique et automatique. Il faut vraiment qu'il y ait un engagement de la liberté, une volonté de se convertir. C'est un peu la même chose pour la confession, l'air de rien, hein, parce que si on n'a pas vraiment envie de se convertir, de ne pas recommencer, etc., on a beau recevoir l'absolution, est-ce que ça fait beaucoup de fruits, hein ? Si on n'a pas envie de vivre, alors c'est justement la thèse de Ratzinger sur l'Eucharistie là, chez Augustin, si on n'a pas envie de vivre comme dans la charité surnaturelle, communier au corps du Christ, c'est presque un sacrilège. Vous voyez que ça va loin. Les sacrements, pour Grégoire de Nice, n'ont vraiment de fécondité que si notre liberté est bien engagée pour leur correspondre. Alors, tout ce travail de la liberté morale, qui est un travail de morale, parce que finalement elle se heurte à nos résistances, découle chez lui d'une fixation de l'âme dans le Christ, qui est source de toutes les vertus, qui aboutit à la contemplation. Et donc c'est l'expérience en quelque sorte, donc l'expérience morale nous pousse à la découverte mystique de Dieu, et l'expérience mystique nous conduit à radicaliser encore notre engagement moral, et non pas poursuivre une règle, mais tout simplement parce qu'on a découvert la vérité, la beauté, la bonté de cette règle, et qu'on a envie de la suivre parce que ça nous rend heureux. Enfin, c'est la grande théorie aristotélicienne des vertus heureuses, en fait. C'est ce que disait d'ailleurs Stéphane Mercier le soir, en disant que faire le bien et en tirer un plaisir, c'est qu'on est réellement vertueux. Faire le bien en faisant la grimace, c'est qu'on est encore insuffisamment vertueux, et que la règle est encore extérieure et pas intérieure. Et oui, on est conscient, ou janséniste, ou... Et voilà. Alors, à la fin, donc à la finale de la vie de Moïse, c'est « Il ne faut craindre qu'une chose, perdre l'amitié divine, et n'estimer qu'une chose honorable et aimable, devenir ami de Dieu, ce qui est la perfection de la vie. » Il répondait à un moine, un jeune moine, qui lui demandait « Qu'est-ce que c'est que la perfection ?» Il y répond par tout cet ouvrage, et il donne la réponse définitive dans la dernière phrase, « Devenir ami de Dieu, ce qui est la perfection de la vie. » Alors, c'est un mystique, et il insiste beaucoup sur la transcendance de Dieu. Grégoire de Nazianze, l'ami de son frère, et donc Grégoire de Nazianze qui parle de Dieu comme étant l'au-delà de tout, hein, de tout ce qui peut être dit, etc., etc. Donc on garde précieusement à l'esprit que de Dieu on peut moins dire ce qu'il est que ce qu'il n'est pas, hein, comme dit saint Thomas, qui résume finalement toute la théologie, comme on dit, apophatique des Grecs, et des platoniciens en particulier. Alors, donc il insiste sur le fait que Dieu est au-delà, hein, toujours au-delà, et il s'ensuit que la montée vers Dieu n'est jamais achevée, elle est un dépouillement de tout ce que l'on peut penser de lui. Alors non seulement un dépouillement, vous voyez, un dépouillement des affections sensibles qui est typiquement grec. Dieu est suprasensible, donc pour toucher Dieu, il faut devenir soi-même suprasensible. Donc c'est l'idée platonicienne qui est derrière. Mais dit, c'est pas uniquement cela, puisque Dieu nous a créés dans un corps de chair, et que Grégoire, de ce point de vue-là, est profondément chrétien. On n'a pas à se dépouiller de notre corps comme de vulgaires bouddhistes, ou hindouistes, ou je ne sais quoi, ou stoïciens ou autres, pour que notre âme convole aux justes noces avec la déité incorporelle, puisque la déité elle-même s'est incarnée. Donc voilà, devenir ami de Dieu, c'est devenir ami du Christ, qui est Dieu fait chair, donc on n'a pas à se débarrasser de notre corps.